Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Par-delà la mort. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. après mon travail, j'aime ne pas rentrer tout de suite. Pour me détendre, faire un tour à pied, quel que soit le temps. Je sors de Flammarion, je suis agent commercial, prends la rue de la République jusqu'à l'Opéra, longe les quais jusqu'au port, jusqu'au pont Lafayette, et prends le cours Lafayette pour rentrer chez moi. J'habite rue Barrier, petite rue qui se trouve en parallèle à la rue Garibaldi. Ce jour-là, je venais d'avoir une journée particulièrement pénible. Malgré ma hâte de rentrer chez moi, je tenais à faire mon tour. Nous étions en septembre, il faisait beau et chaud. Les feuilles des arbres étaient encore vertes, le ciel bleu. Cette année, l'été n'en finissait pas. Il avait été précoce et chaud. Comme toutes les années, je n'étais pas parti. À quoi bon? Et pour aller où? Et puis la ville d'été était agréable. Arrivé vers l'OPA, en passant devant la terrasse du café Moulin Joli, je vis assis à la terrasse, le regard vague, une cigarette à la main, Jean-Yves. Cela faisait 2 ans que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Je m'approchais de lui. Comme il ne faisait pas attention à moi, j'appuyais mon doigt sur la table. Il me vit. « Oh, Charles !»« Bonjour, Jean-Yves. Cela fait longtemps que je ne t'ai vu. Comment vas-tu ?»« J'ai la leucémie. »« Oh !» Je m'asseyais en face de lui. « Tu ne le savais pas ?»« Non, comment aurais-je pu le savoir ?»« Je croyais que tu le savais. » J'étais extrêmement ému. Il avait le visage pâle, le regard hagard et brillant. Ses yeux et ses bras étaient d'une maigreur squelettique. « Tu souffres beaucoup ?»« Non, je suis surtout faible, très faible. » »« Et puis, je vis comme une légume, je ne peux rien faire. » Goût à rien. Je savais que la leucémie ne se guérissait pas après avoir passé 30 ans. Et tes chances de guérison? Je n'en ai pas. 6 mois, 1 an à vivre. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que les 6 mois, 1 an, on ne peut rien faire. On n'a goût à rien. Est-ce que c'est vrai que l'alcool préserve? Ça préserve des microbes, mais pas de la leucémie, et puis de toute façon, ça préserve, mais en même temps, ça détruit. Il hausse les épaules et me dit, de toute façon, tu es en longue maladie, tu ne travailles pas. De temps en temps, je travaille, on est gentil avec moi. On sait ce que je peux pas faire, on sait que je ne peux pas faire grand chose. Je le regarde. Et un ancien désir me prenait mon corps. Par-delà la maladie, la mort, j'avais encore envie de le posséder. C'était plus fort que tout. Tu es toujours avec Laurent? Non, Laurent, c'est fini. Depuis longtemps, dès qu'il a su que j'étais malade, il m'a laissé tomber. J'ai déménagé et je vis seul. Je cherchais à te joindre, mais je n'ai pas eu ton adresse. Tu ne l'as pas? Je vais te la donner. Il prit un stylo de sa poche de sa veste et écrivit sur un morceau de papier qui était la note de consommation. Il me l'attendit. Tu me téléphones? Fais-le avant 20h. Je me couche tôt. Merci, oui, je te téléphonerai. J'espère que nous nous reverrons. Je reviendrai te voir, Charles. Il se lève. Excuse-moi, mais il faut que je rentre. Tu veux que je te raccompagne? Non, je veux marcher seul. À bientôt. Il commençait à s'éloigner d'un pas hésitant, comme un homme ivre. Je courais à lui. Je prenais les mains, qui étaient toujours aussi douces. Tu sais, pour moi, rien n'a changé. Tu es toujours aussi beau. Je t'aime toujours autant. Merci, Charles. Tu es gentil. À bientôt. À bientôt. et celles noires ne sont pas hésitants. J'étais triste, mais quelque chose de plus était en moi. Le désir de le posséder, de sentir son corps contre le mien, le voir nu, le toucher, l'entendre jouir. Cette nuit-là, dans mon lit, je revivais les faits et gestes intimes que nous avions eus ensemble. Le mouvement de sa jambe lorsque le plaisir était trop fort, il la soulevait et la resserrait. Sa main qui me guidait pour que je le prenne, et ses râles de plaisir. Je revoyais aussi son corps long et mince, son sexe de taille moyenne et ferme. Tout ceci me mettait en feu. Je voulais le revoir et le reposséder. Sa maladie ne comptait pas pour moi. Il ne pouvait pas être lui. Lui, c'était le plaisir, la joie, la vie. Ça ne pouvait pas être la mort. Mon travail me faisait beaucoup voyager. C'est pour cela que je n'habitais qu'une pièce au premier étage d'un vieil immeuble rue Barrier. Juste ce qu'il faut. Un lit à une place, une armoire, une bibliothèque, table, fauteuil, coin cuisine et salle d'eau. Les meubles sont en satin blanc peint. C'est fonctionnel et propre. La solitude me convenait assez. Je ne suis pas pour la vie de couple, même couple homme-femme. Mes aventures amoureuses n'étaient pas nombreuses, car je n'étais pas très beau, et même pas beau du tout. Le visage osseux, grand, maigre, enfin pas beau. À cette époque, j'avais 40 ans. Mais ce n'était pas l'âge qui m'avait enlaidi. Non, je l'avais toujours été. Je me console en me disant que les laits vieillissent moins vite que les autres. Arrivé à 30 ans, ils se stabilisent. C'est vrai que je n'avais pas eu de chance en amour lorsque j'étais jeune, jusqu'à 30 ans. Cela me faisait beaucoup souffrir. Et puis maintenant, on se fait une raison. J'ai eu 4 ou 5 grands amours dans ma vie. Et dans ces 4 ou 5, il y avait Jean-Yves. Il était plus jeune que moi et n'aimait pas les hommes plus vieux. Moi, il me trouvait très laid et ne manquait pas de me le dire, pour ma plus grande tristesse. Moi, je le trouvais beau, extrêmement beau. En y repensant maintenant, je crois qu'il était plutôt séduisant que beau. Il était grand, mince, le visage un peu osseux, les cheveux plaqués, mi-longs, et sa façon de se mouvoir ne manquait pas de grâce. Nous nous sommes rencontrés dans le restaurant où je vais toujours pour déjeuner, rue des Marronniers. Il y avait du monde, alors il s'est mis à ma table et nous avons fait connaissance. Je ne vous raconterai pas toute notre aventure, seulement comment je suis tombé amoureux de lui. Tout de suite et d'une façon folle. Lui non, mais me trouvait gentil. Après quelques mois, j'allais chez lui. Puis, par désœuvrement ou gentillesse, il m'a proposé de faire l'amour avec lui. Il ne voulait pas que nous en parlions. Nous devions cacher nos rapports. Moi je l'aimais. Ses rapports étaient pour moi merveilleux et tout à la fois tristes, car je sentais qu'il le faisait sans amour. Le temps passait ainsi, nous nous voyions une fois par semaine. Parfois je me disais, peut-être, qui sait avec le temps. Et puis, un jour, ce fut la bombe. Il m'a dit qu'il avait rencontré un petit jeune et qu'il allait vivre avec lui. Alors bien sûr, moi, je l'ai quitté très tristement. Puis, le temps a passé, je ne l'ai plus revu et repris mes habitudes. Lorsque mes désirs étaient très forts, le soir, même la nuit, j'allais traîner sur les quais à la recherche de plaisirs très éphémères qui vous laissent une grande amertume. Mais c'est la vie, qui pouvons-nous ? Passait une semaine sans téléphoner à Jean-Yves. Puis, faisant son numéro d'une main hésitante, le téléphone sonna. Rien. Recommençait plusieurs fois. Toujours rien. Après 4 jours d'essai, je lui envoyais une lettre. 15 jours plus tard, pas de réponse. Recommençait avec le téléphone. Toujours rien. Téléphonait à son employeur. Qui ne voulait rien me dire. J'étais inquiet, mais en même temps, j'étais surtout poussé par le désir de posséder. Depuis quelque temps, dans mes rêves, il n'y avait que cela. C'était tout juste si je ne le sentais pas jouir de plaisir. Oui, je voulais, je désirais le faire jouir. C'en était devenu une obsession, une véritable obsession. Plusieurs jours sans nouvelles, je décidai d'aller chez lui. Il habitait rue Bouteille, dans un vieil immeuble, sombre et délabré, un petit F2. J'entrai dans l'allée. Il y avait son nom sur la boîte aux lettres. Et au premier, à sa porte aussi, je sonnai. Pas de réponse. J'attendais un peu, puis redescendais. Griffonnais sur un morceau de papier que j'avais trouvé dans ma poche un mot, comme quoi j'étais passé et désirais avoir ses nouvelles. Et le déposait dans sa boîte aux lettres. Les jours passaient. Essayait encore de téléphoner, retourner chez lui, toujours rien. J'attendais aussi à la sortie de son travail, demandais à des gens, mais personne pour me dire quoi que ce soit. Je me souvins que j'avais le numéro de téléphone de ses parents. Je fis le numéro après plusieurs moments d'hésitation. Je ne les connaissais pas. Une voix féminine me répondit. « Allô ? Je suis bien chez monsieur et madame Thomas. Oui, monsieur. Bonjour, madame. Je m'appelle Charles Desmond, un ami de votre fils Jean-Yves. Cela fait plusieurs mois que je n'avais pas de ses nouvelles et comme je sais qu'il a de gros ennuis de santé, c'est pour cela que je me permets de vous téléphoner. Pouvez-vous me donner de ces nouvelles ? » Elle soupire. Jean-Yves est mort. Mon cerveau devint bouillonnant. J'avalais ma salive. Depuis combien de temps ? 3 semaines. A-t-il beaucoup souffert ? Je ne pense pas les médecins étaient là pour l'aider. Je vous présente mes condoléances. À vous et votre famille. Où est-il enterré ? Ici, au cimetière de Moutier. Je l'aimais beaucoup. J'irai sur sa tombe samedi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Que fallait-il dire de plus ? La mort avait tout dit. J'allais m'asseoir sur mon fauteuil. Essayant de ne pas trop réfléchir, si l'on réfléchit trop sur quelque chose d'insoluble, l'on risque de devenir fou. Je me mis à pleurer, doucement, tristement. C'était plus des larmes sur moi-même, car je ressentais une certaine frustration. Je ne le reverrai plus. Il ne sera plus à moi. Ne plus pouvoir toucher son corps, le sentir vibrer grâce à moi, jouir. Cela m'était insupportable. Je l'avais encore dans ma peau, je sentais encore son odeur, je le voyais, j'entendais ses cris intimes. Tout cela était fini, définitivement fini. Mon chagrin était quelque chose d'égoïste. Je pleurais sur moi-même parce que j'avais perdu l'objet de mon plaisir. Le samedi, je prenais l'autorail pour Moutier, en Savoie, Tarentaise. Je partis à 8h. Arrivais à 11h à Moutier, demandais où se trouvait le cimetière et y allais. Je n'avais pas l'intention d'aller voir sa famille. À quoi bon ? déranger ces gens. Un eunuque leur présente ses condoléances sans savoir quoi se dire. Ceci ne servirait qu'à appuyer sur la plaie qui fait mal. Devant le cimetière, j'astais un peu de pensée. Il faisait encore beau, mais moins. Nous étions en novembre. Le ciel était moins bleu, les feuilles commençaient à tomber et la lumière du soleil était d'un jaune triste, comme celle d'une bougie. J'allais au hasard en regardant les noms sur les tombes. Ma tête était vide et je dois avouer que la nouveauté du voyage m'avait un peu distrait. Enfin, je la trouvais. Elle était toute simple, blanche, avec inscrit dessus seulement son nom et sa date de naissance et celle de sa mort. La tombe était fleurie. Je mis mon pot où je pus et restai un moment là, silencieux. De prier, ni à rien. Je ne sentais pas son corps sur cette tombe. Il était plus sans moi. Je restais là, la tête vide, sans penser à rien. Mon corps avait la chair mise à nu, sans sa peau, puisque ma peau c'était lui. Je me sentais à jamais frustré. Il me disait que personne ne pourrait m'aider. Même devant sa tombe, je pleurais encore sur moi-même. J'entendis des pas derrière moi. Je me retournai. C'était un jeune homme qui venait de mon côté. Il était de taille moyenne, un peu fort, dans les 25 ans, blond, le visage tendre. Il avait un blouson de cuir marron et un pantalon beige. Il vint se mettre à côté de moi, ce qui me gêna beaucoup. Je fis le geste de partir. Il me regarda et me dit: vous n'êtes pas de la famille? Vous êtes un ami? Oui. Moi aussi, j'étais son ami. Je m'appelle Philippe. Moi, Charles. Jean-Yves m'avait parlé de vous et un peu de votre amitié. Je l'ai connu très jeune, j'avais 12 ans, et lui 15. Nous étions voisins. Nous avons vécu une belle liaison qui s'est finie tragiquement d'ailleurs. Je sais. J'avais devant moi le seul vrai amour de Jean-Yves. J'étais pris par un désir étrange. J'avais envie de me lier avec lui pour retrouver Jean-Yves, le posséder comme il a possédé Jean-Yves, remplacer Jean-Yves pour le ravoir avec son ami. Je voulais désirer Philippe pour avoir Jean-Yves. Il me dit, vous partez? Oui, je m'en retourne vers la gare. Vous habitez loin? Non, Lyon. Je vous accompagne? Il commence à faire frais. Nous irons boire un café près de la gare. Oui, je veux bien, lui dis-je. Et nous avons quitté le cimetière. En marchant, il m'arrivait de le regarder. Son visage éclairé par le soleil d'automne, il me semblait beau. Et je comprenais la passion qu'avait eue Jean-Yves. Arrivés au centre-ville, près de la gare, nous sommes entrés dans un café.
Ça va?
Oh, mais ne me faites pas des corps pareils, vous êtes terrible, Marcel.
Nous avons pris de café.
Oui.
Nous parlions très peu. Je lui demandais.
Un véritable cordon sanitaire.
Faites quoi dans la vie? Je serai pas longtemps en thermomètre et à titre de précision.
Et vous avez quel âge?
Vous vivez seul? J'ai vécu 5 ans avec une fille, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je vis seul. Ce que j'ai vécu avec Jean-Yves, c'était tellement fort. Quand même, n'étant pas homosexuel, cela a été l'amour de ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. N'est pas homosexuel? Non. Je suis donné à lui par amour, amitié, si vous voulez. Mais pas parce que je le désirais. J'étais toujours atterri par les filles. Et maintenant, je ne sais plus. Pourriez avec un homme avoir une relation maintenant? Je ne crois pas. Je regardais mon horaire pour mon train. Il était temps que je parte. Je dois vous quitter. Nous nous sommes levés et avons quitté le café.
Ma sœur s'était moquée de moi, mais la revoir était sûrement la meilleure solution. Une catharsis. Regardez comme il s'amuse.
Il m'a raccompagné jusqu'au quai. Entre être arrivé, je lui ai dit « Au revoir, j'étais très heureux de faire votre connaissance. » Il me dit « Moi aussi. » Et je l'ai quitté. Thank you.